prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le lion de Benaja.
Soirée, elle est un petit peu particulière puisque c'est une veillée de Noël et je vous entraîner dans une réflexion où il est question justement eh bien, de la victoire de Dieu. Oui, la victoire de Dieu, parce que Noël, c'est véritablement ce que nous pouvons appeler le triomphe de Dieu sur le mal. Alors on va faire deux lectures, une première dans un livre de l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 22, et puis après nous nous reporterons dans un texte complémentaire dans le Nouveau Testament. Alors, 1 Chronique, chapitre 11, verset 22, et vous allez juger de l'originalité du sujet. Vous allez voir, on va essayer d'expliquer le texte, et dans la Bible, toute écriture nous a été laissée pour notre instruction. Alors, voilà, au verset 22, il est question donc d'un homme qui s'appelle Benaja, fils de Jéhodaja, fils d'un homme de Katsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées, ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhodaja et élu du renom. Parmi les 3 vaillants hommes, il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David, l'ennemi dans son conseil secret. Voilà pour la première lecture. La seconde, nous allons aller la chercher et la trouver dans 1 Pierre, chapitre 5, entendez bien, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Voilà. Il y a l'histoire que nous venons de lire et il y a maintenant le principe biblique qui va être mis en évidence. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Voilà. Est-ce que vous connaissez Benaja? Pas personnellement, je présume. Mais toujours est-il que si vous lisez votre Bible, vous allez trouver des noms et d'hommes qui se sont singularisés et qui sont rentrés dans le plan de Dieu pour accomplir véritablement cette volonté suprême et où il y a derrière eux eh bien, un message. Et c'est ce message que nous allons partager ce soir. Benaja a une signification, ça veut dire « fils de l'Éternel ». Voilà. C'est pas « fils de Dieu », mais « fils de l'Éternel », c'est quand même une grande distinction. Et son histoire, on l'a lu par quelques bribes, il est au service du roi David, et depuis son entrée en service, il s'est singularisé par 3 exploits, ou c'est peut-être ce qui l'a fait rentrer dans le conseil de ce grand roi d'Israël. D'abord, il a tué les 2 lions de Moab. Selon les commentaires, ce serait des hommes. Mais enfin, il est question de lion. La deuxième chose qui l'a mis à l'honneur, c'est qu'il est venu également eh bien, maîtriser et tuer un lion tombé dans une fosse. Et c'est de celui-là que nous allons justement parler. Et puis, troisième exploit, eh bien, il a affronté un géant égyptien. Et ça nous rappelle singulièrement l'histoire de David et de Goliath. Mais ceci dit, c'était simplement pour faire un petit tour d'horizon. Le roi David, devant les qualités de cet homme, l'avait choisi pour sa bravoure et pour son héroïsme. Et Cette bravoure et cet héroïsme, Benajal a puisé dans une chose que nous connaissons bien, que tout chrétien connaît, que nous avons nous-mêmes à développer, c'est tout simplement la foi. Voilà, la foi. Et ensuite, en raison de cela, Benajal a été admis au conseil secret royal, c'est-à-dire qu'il est rentré parmi les grands, parce qu'il avait fait, eh bien, des choses extraordinaires. Vous remarquerez que le récit nous apprend de lui que son père, que l'on nomme Jehojada, eh bien, avait été en son temps lui-même un héros qui s'était distingué par des actions d'éclat. Alors peut-être que nous pourrions penser tel père, tel fils, mais il avait certainement eu, eh bien, un exemple de son père, Jehojada, un homme qui avait aussi des qualités. Et nous voyons que cet homme avait été en son temps un héros. Et il s'était donc distingué de cette manière. Benajal allait à son tour devenir un valeureux héros, un homme d'une grande foi, dont la leçon vaut encore pour nous aujourd'hui, nous qui vivons eh bien là après des siècles et des siècles. Mais écoutez bien, parce que je crois que c'est aussi eh bien, quelque chose qui peut être intéressant et important pour nous. Alors, par-delà tout cela, eh bien, ça nous rappelle toute cette histoire de ces grands hommes de la Bible, et en particulier l'histoire de Benajal, ça nous rappelle et ça nous remet en souvenir les victoires que Jésus, je dis bien oui, Jésus, a pris sur le mal, sur le monde, sur le péché et sur la mort. Vous vous souvenez certainement que l'apôtre Jean écrira dans son épître que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Ça se trouve dans notre Bible, assurément. Et nous voyons que c'est confirmé par d'autres textes, mais c'est écrit d'une manière très claire, ça. Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donc, est venu pour neutraliser, pour finalement eh bien, mettre un arrêt définitif aux agissements de l'adversaire. Et voilà, et nous l'avons lu, je reprends. Un jour qu'il neigeait, et ce n'est pas pour rien qu'il nous ait dit cela, Benajal eut l'occasion de prouver ce dont il était capable, c'est-à-dire faire la preuve de sa foi en Dieu. Et vous allez voir qu'il fallait beaucoup de foi pour faire ce qu'il a fait. Vraiment beaucoup de foi. Parce que si ça avait été simplement une capacité humaine, si ce n'était été que, eh bien, tout simplement, une envolée de volonté de dire, eh bien, voilà, maintenant je vais aller tuer ce lion, si ça avait été simplement sur le plan naturel, je crois qu'il ne serait pas arrivé, et vous allez voir pourquoi. Et c'est vrai que ce qu'il a fait ce jour-là, eh bien, réclamait beaucoup de foi, et je dirais, je préciserai, ce que j'appellerais aujourd'hui l'audace de la foi. Oui, la foi a une audace. Ce n'est pas de la témérité, ce n'est pas quelque chose que nous inventons par nous-mêmes en disant, voilà, il y a telle ou telle situation à régler, tel ou tel problème à solutionner, alors, eh bien, je crois que je suis l'homme. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je crois que Benajal était rempli de l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, il a été saisi, et c'est comme cela que il a réalisé que véritablement Dieu lui le recouvrait, lui donnait ce don de foi. Pas le don de foi pour être sauvé, le don que nous avons les uns et les autres, mais un don exceptionnel dans un moment donné pour une situation particulière. Et cela a demandé naturellement beaucoup d'audace. Alors, dans ces temps reculés dont nous parle la Bible, il existait encore en Syrie ou en Palestine des lions. Oui. C'est reconnu hein, par les écrivains de l'Antiquité, des lions qui étaient beaucoup plus petits. Le lion de Syrie était quelque chose d'un animal qui était donc assez répandu. Et les populations terrorisées piégeaient ces fauves en creusant de profondes fosses, ou des ravins, si vous aimez mieux, que l'on recouvrait de branchages. Et l'idéal pour les capturer, eh bien, était quand il neigeait. Et vous savez pourquoi, vous avez deviné. Parce que finalement, la neige, quand elle tombe, elle recouvre toute la campagne. Et là, on ne voit plus les aspérités, on ne voit plus ce qui pourrait être éventuellement, eh bien, ce qui pourrait nous indiquer qu'il y a là un piège ou ceci et cela. C'est pour ça qu'il nous est dit un jour de neige. Il y avait ce fauve en quête de dévorer tantôt un mouton, tantôt une chèvre, ce qu'il pouvait trouver. Et cet animal giboyait dans la campagne jusqu'au jour où il tombait malencontreusement dans le piège. Et là, il se passait quelque chose. C'est que les hommes prenaient leur revanche sur le roi des animaux et allaient jusqu'à la fosse et s'arrangeaient pour le tuer. D'une manière ou d'une autre, eh bien, s'arranger pour prendre le dessus sur cet animal qui, quand même, somme toute, est redoutable. On n'a pas de lion par chez nous, mais on en a vu peut-être dans les zoos ou dans des films comme ça. Alors, le lion est un animal majestueux. Pas pour rien qu'il est pris aussi, quelquefois, et bien en exemple dans la Bible, et qui pèse parfois jusqu'à 200 kilos. Il peut poursuivre sa proie eh bien, à une vitesse de 80 km/h, et il est aussi capable d'engloutir plus de 35 kg de viande eh bien, dans un seul repas, et il est parfois mangeur d'hommes. Enfin, voilà, c'est ce qui nous est rapporté un petit peu des caractéristiques de cet animal pour le dépeindre en deux mots. À cette époque, lorsqu'un lion était signalé, la population était aux abois, et pas question de laisser traîner tout simplement âmes qui vivent au dehors, et particulièrement les enfants. Alors, à un moment donné, un mugissement s'était fait entendre, et le lion est tombé dans la fosse, et son énorme tête convulsée là, ressortait un petit peu, elle était bien dedans actuellement, et il frissonnait de rage, puisqu'il s'était fait prendre tout simplement. Et à entendre ces rugissements, les gens allaient s'englacer à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que c'est quand même un animal redoutable, tout simplement. Et le lion, à ce moment-là, tombé dans la fosse, s'était fait prendre au piège, en quelque sorte, était vaincu, mais j'ajoute quelque chose, il n'était pas encore mort. Et vous allez voir sur quoi je vais aboutir d'ici quelques instants. Il était vaincu, mais il n'était pas mort. À vrai dire, dans le fond de son piège, il n'avait jamais été aussi dangereux, parce qu'il était au paroxysme de la fureur. Il était là dans une dimension, finalement, un lion complètement hors de lui-même. Mais la question qui se posait parmi les habitants, était la suivante, mais qui allait le mettre à mort pour en débarrasser le pays ? Voilà. Qui aurait le courage de se lever ? Quel est l'homme vaillant, audacieux, courageux, rempli de foi, qui allait finalement le mettre à mort ? Il fallait beaucoup de confiance, non pas en soi-même, beaucoup de courage, pour affronter cet animal au summum de sa rage. Alors Benaja s'est approché, et prudemment, il s'est mis à descendre dans la fosse. Parce que le principe, c'était non pas de le tuer comme ça, par le dessus, mais de descendre et de rentrer dans un combat singulier entre le fauve et l'homme. C'était comme ça. Alors, Benaja va descendre. Et une autre question qui se pose dans la tête de tous ceux qui sont autour, mais qui sera vainqueur ? Est-ce que ce sera l'homme ou est-ce que ce sera la bête ? Est-ce que ce sera la bête ou est-ce que ce sera Benaja ? Alors un duel sans merci allait commencer la descente dans l'arène, dont un seul remonterait vivant. L'un ou l'autre allait mourir. Ça, il n'y avait absolument aucun doute à avoir. Et il allait remonter comme ressuscité, en quelque sorte, après le combat. Parce que, il faut le rappeler, je le souligne encore une fois, c'est un combat à mort. Alors Benaja, au fond de face à face avec cet animal, s'était lancé et il porta à l'animal un coup mortel. À ce moment-là, les hommes qui étaient autour ont entendu un sinistre grondement, quelques soubresauts, et le lion a été touché au cœur, et il s'est écroulé au pied de son vainqueur. Voilà un peu l'histoire que je suis en train de vous raconter, en paraphrasant naturellement. Alors le pays, à ce moment-là, les hommes allaient pouvoir respirer et vivre. Le fauve ne ferait plus de victimes, parce que Benaja, le héros, était descendu dans la fosse et avait vaincu son adversaire, tout simplement. Ça, c'est l'histoire. Voilà pour l'histoire. Mais celle-ci nous intéresse particulièrement parce qu'elle évoque un autre héros, plus fort encore et plus glorieux à cause de la permanence de ses victoires. Et je pense que déjà, je vous entraîne dans une pensée qui nous rapproche de l'Évangile, qui nous rapproche de celui que nous connaissons, de celui que nous avons chanté il y a quelques instants. Oui. Parce que si Benaja a été victorieux une fois, deux fois, trois fois, nous l'avons lu, il y en a un qui est vainqueur pour tous les temps, à jamais et pour l'éternité. Ce vainqueur, vous le savez, c'est Jésus. C'est celui qui ne paraît pas à la petite enfant dans une crèche, qui fait le mépris des hommes, qui fait la fureur aussi d'un autre lion qui s'appelle Hérode, et qui lui aussi va se faire dévorer par un jugement de Dieu, Hérode de Grand. Oui. Alors ce vainqueur, nous le connaissons. Le Nouveau Testament relate les récits où Jésus, dans l'Évangile, descend dans la fosse. Et de quelle fosse? La reine du monde. Vous savez? Oui. Quand vous lisez Philippiens, chapitre 2, et que vous dites, et que vous avez sous les yeux ce texte qui nous montre que Jésus s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auparavant, qu'il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, son Père, et l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu aussi, et qui s'est rendu comme un simple homme, semblable à un simple homme. Mais pourquoi est-il venu sur la terre? Pourquoi s'est-il humilié? Pourquoi s'est-il laissé crucifier? C'est parce qu'il est descendu dans la fosse. Vous savez, Benaja, quand il est descendu dans la fosse, il ne savait pas s'il en ressortirait vivant. Il ne savait pas dans quel état il en ressortirait, même s'il en ressortait vivant, mais dans quel... Qu'est-ce qui lui restait peut-être de ses bras et de ses jambes? Blessé peut-être, et peut-être blessé à mort. Alors Jésus est descendu dans la fosse, dans notre fosse à nous, l'arène de notre monde, où il va livrer l'ultime combat contre un lion suprêmement redoutable, c'est-à-dire le diable et Satan. Et cela nous ramène, figurez-vous, à relire dans notre passage que nous avons ouvert il y a un instant, et je le reprends parce que je crois qu'il est quand même évident dans Pierre, je retrouve tout simplement eh bien, ce passage, 1 Pierre, chapitre 5, si je vous ai bien donné les bonnes références, il est dit ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme. » Vous avez déjà tout compris. Hein? C'est une belle histoire que l'histoire de Benaja. Parce qu'il n'y a pas d'histoire dans la Bible qui n'ait son correspondant dans le Nouveau Testament pour éclairer notre esprit, notre cœur dans le domaine de la vie spirituelle, de la foi et de la puissance de Dieu, de la divinité de Jésus-Christ. Celui qui, depuis les temps de l'Éden, terrorisait la terre, faisant des hommes ses victimes, déchirant, détruisant, ruinant, dévorant des existences, a été vaincu selon la vieille promesse de Dieu, quand Dieu dira directement au diable, dans Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai la guerre entre toi et la femme » entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête. Et nous voyons que par cette parole même de Dieu, au premier jour de la chute de l'homme, eh bien Dieu avait déjà préparé un plan de salut pour vaincre le lion, pour vaincre le serpent, pour vaincre le diable, pour vaincre Satan. Quand il est dit ceci, mais la postérité de la femme, c'est-à-dire la postérité humaine des croyants, des vainqueurs, des hommes de foi, elle t'écrasera la tête. Et ça s'est fait le jour où Jésus, 30 ans après sa naissance, est monté sur une croix à Jérusalem et là a vaincu le diable, complètement et totalement. Attention, il est dans la fosse, mais il n'est pas encore mort. C'est pourquoi il y a encore la tentation dans notre monde. Il est vaincu! Mais cette victoire, nous pouvons la prendre que dans la mesure où nous la saisissons par la foi. Et la victoire, ce n'est pas la nôtre, c'est la victoire de Christ. Et à partir du moment que je me renferme dans la victoire de Jésus, que je prends cette victoire de Jésus, que j'y crois de tout mon cœur, alors à ce moment-là, Jésus peut nous dire, mais vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, vous pouvez dire à ce sycomore, vous pouvez tout faire. C'est la puissance de la foi, la puissance de la délivrance, contre le mal, contre le péché, contre la mort. Alors celui qui, depuis les temps immémoriaux, terrorisait l'humanité, a été vaincu, parce que les choses sont dites. Et sous des apparences de défaite, la croix où Jésus est mort, mais aussitôt ressuscité, a été l'écrasement absolu de Satan et de son pouvoir. Parce que c'est vrai que lorsque nous regardons la croix, nous voyons Jésus mourir, expiré à la croix. En disant ces dernières paroles, tout est accompli. Mais apparemment, ça semble une véritable catastrophe. Celui qui venait pour donner la vie est mort. Mais il est précisément mort pour que nous, nous ayons la vie, par la foi en son nom et dans son œuvre, une œuvre expiatoire. Alors, l'écrasement était total à la croix du calvaire. Benaja, notre Benaja à nous, est descendu dans la fosse, dans l'arène du monde. Et c'est comme cela que la victoire nous a été donnée. Et ça, faut nous en souvenir, parce que ce sont les éléments, les principes essentiels de notre vie spirituelle, de notre vie avec Dieu. Ce triomphe de Jésus-Christ sur le mal et le malin est mis en évidence par ce que Paul écrit dans, me semble-t-il, Colossiens. Écoutez bien cette parole. Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les textes sont là. Les textes nous parlent. Ils nourrissent notre foi. Écoutez bien. Il l'a détruit, cette puissance. Ces dominations, ces autorités, ces principautés, ces esprits méchants dans les lieux célestes, elles ont été vaincues. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que nous croyons réellement que Jésus est le vainqueur? Est-ce que nous croyons au fond de notre cœur que, eh bien, nous avons cette victoire, nous la partageons avec lui? Alors finis la peur, finis la crainte, puisque nous sommes vainqueurs. Et tout cela repose, non pas dans une fosse, mais sur une croix. De cette croix, Jésus a été déposé dans la fosse, et de cette fosse, il en est ressorti ressuscité. C'est ça l'évangile, c'est pas autre chose. Mais cet évangile-là, il a rempli l'univers entier. Je voudrais vous rappeler que le lion a deux tactiques d'attaque imparables. La première, c'est son rugissement qui glace et pétrifie de terreur, si bien que ses victimes effrayées, sans se défendre, eh bien, vont se laisser dévorer. Le rugissement du lion, c'est hyper terrifiant. Vous n'en entendrez pas à Saint-Nazaire, ça serait quand même assez étonnant. À moins qu'il y ait un cirque qui est léché, qui ait laissé peut-être une porte ouverte. Mais il paraît que c'est quelque chose. Hein. Dans la savane, hein, ou dans certaines régions, des contrées, le rugissement du lion, il s'entend là, très très loin. Ça, c'est sa première ruse pour provoquer la peur. Et combien l'adversaire se fait le lion, le rugissant pour nous terroriser, pour nous faire peur, avec des choses dont nous ne devrions pas avoir peur. Et puis la deuxième chose, vous la connaissez la deuxième, parce qu'elle est à l'origine de la chute de l'homme. Eh bien, ce sont ses ruses. Quand il nous a dit, le serpent, qui est l'animal le plus rusé, s'approcha de la femme et lui dit, par la suite vous la connaissez, ses ruses d'approche, quand il se tapit, il vient là d'une manière sans bruit, quand il se dissimule pour mieux bondir sur ses proies et les saisir. Et là, il y a aussi un effet de surprise. Soit ça va être le lion qui va déchirer l'atmosphère, le rugissement qui va déchirer l'atmosphère, ou alors, et bien là, venir par derrière, et puis l'effet de surprise. Je voudrais vous dire que Jésus a rencontré ces deux formes de manœuvre de l'adversaire. Par exemple, les rugissements d'Hérode, oui, qui est appelé aussi le renard. Jésus l'appellera le renard, si vous avez vu votre vie, c'est écrit. Les rugissements de ses compatriotes, les Nazaréens qui étaient furieux. Vous savez qu'à un moment donné, ils voulaient précipiter des pentes escarpées de leurs collines. Les pharisiens qui étaient remplis d'envie et de jalousie. Ça, c'était des rugissements incessants, continuellement autour de Jésus. Et puis, les rugissements au dernier moment, la foule qui crie à mort. Crucifie, crucifie, ce sont des rugissements, tout ça. Et puis la ruse. Dans le désert pendant 40 jours, l'ennemi s'approche pour essayer de le faire fléchir. Les tentations au désert, c'est la ruse tout ça. Les acclamations pour le faire au roi, après la multiplication des pains et des poissons, par ruse. Et puis également les insinuations de Pierre, même un disciple tombe dans le panneau. Que cela ne t'advienne, tu ne mourras pas. Jésus se retournant à dire, arrière de moi Satan, parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Vous rendez compte que le diable avait réussi à prendre Pierre de son côté pour faire dire des choses, pour essayer de déconcerter Jésus et puis de le faire sortir de sa mission. Tes pensées que ne sont que les pensées humaines. Ouais. Ce sont des ruses tout ça. Puis il y en a bien d'autres. Hein. Je passe et il y en a des pires. Ce que je voudrais dire, c'est que le lion dont nous parlons, c'est-à-dire le diable, n'a pu impressionner Jésus et le faire renoncer à sa mission. Et l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu, eh bien, c'est réalisé. Et ce plan, je le rappelle, c'est sauver les hommes. C'est les arracher à la gueule du lion sanguinaire et du destructeur. Et encore aujourd'hui, lorsque nous prêchons l'Évangile, comme nous l'entendons ce soir, et comme nous le prêchons à chaque fois que nous avons des réunions dans l'espace de l'Évangile, eh bien, c'est de faire connaître, c'est de permettre aux hommes, à travers ce moyen de cette parole ou de la prédication, d'y ajouter foi, de faire confiance à cette parole, et de leur permettre de pouvoir regarder maintenant vers celui qui les appelle, qui les sollicite, pour qu'ils puissent être arrachés à leur propre mort, arrachés à leur propre maladie ou à leur maladie, à tout ce qui, véritablement, eh bien, les détruit et gâche leur existence. Parce que Dieu nous a donné des promesses de vie, et des promesses d'abondance et de liberté, de paix, de joie également. Alors c'est pour ça que l'Évangile est encore prêché. Et vous savez, je crois que si Jésus avait été vaincu, il n'y aurait pas de prédicateur. Il n'y en aurait pas eu pendant 20 siècles. Et aujourd'hui, on n'entendrait plus parler de ce merveilleux message du royaume de Dieu et de celui qui en est le roi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est vainqueur, Jésus. 20 siècles après, on en parle encore. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire, ça. Jésus n'a pas craint l'ennemi. Il n'a pas seulement risqué sa vie comme Benaja, mais il l'a donnée. Souvenez-vous de ce que Jésus dira dans une parabole que nous connaissons bien, c'est le bon berger. Il dira à un moment donné à ses détracteurs et à ses auditeurs, il dira ceci, « Je donne ma vie pour mes brebis. Je ne la reprends pas. Personne ne... Mais c'est moi qui la donne volontairement. » Et nous voyons que c'est bien cela ce qui s'est passé. La force de sa foi et de son courage, Jésus l'exprime ainsi afin que plus personne n'ait désormais jamais peur de l'adversaire qui est vaincu. Mes amis qui écoutez cette parole ce soir, je voudrais vous dire, et je voudrais, parce que ce sera la dernière parole de l'année, on se reverra en 2012, mais je voudrais que vous partiez avec cette parole, vous qui tremblez, vous qui avez peur de ceci et de cela, vous qui êtes en train d'observer toutes sortes de choses en disant « mais qu'est-ce qu'il va m'arriver ?» Eh bien écoutez cette parole, prenez-la ce soir, et je crois que c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Afin que vous ayez l'assurance et la certitude que si vous avez réellement Jésus et si vous avez donné toute la place à Jésus, vous n'avez plus rien à craindre. Le Seigneur est avec vous. Vous n'avez plus rien à craindre. Pourquoi avoir peur? Craindre les hommes? Mais ce ne sont que des hommes. Ils ont peut-être des ruses et des rugissements, mais ce ne sont que des hommes. Craindre qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et je voudrais le marquer encore, parce qu'il y a tant de gens qui sont aux prises avec toutes sortes d'angoisses, toutes sortes d'anxiétés qui sont là à observer le matin dès qu'ils se réveillent en disant « Mais qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui ?» Écoutez, le Seigneur vous dit « gens de peu de foi ». Et ça ne veut pas dire que c'est parce que nous avons peu de foi que nous pouvons en avoir davantage. Au contraire, il faut en prendre conscience. Et si nous avons un élan, si nous devons nous précipiter dans quelque chose, eh bien c'est de dire, eh bien comme les disciples disaient hier, comme cela nous est rapporté dans l'évangile de Luc, « Mais Seigneur, augmente notre foi, donne-nous une grande foi !» Alors à ce moment-là, vous serez vainqueur. Vous pourrez affronter toutes sortes de choses. Désormais, parce que vous avez Jésus dans votre vie et que c'est lui qui domine, il est le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, comme on l'a chanté tout à l'heure, alors, eh bien, il a toute la place et ce n'est plus vous qui allez piloter toutes ces choses qui vous effraient, et c'est lui à l'intérieur. Et vous savez ce qu'il va vous dire constamment? Ne crains pas. Crois seulement. On connaît cette parole. Votre adversaire, notre adversaire à tous, mon adversaire a été vaincu. Et je le crois de tout mon cœur. Franchement, je le crois. Ça m'arrive quelquefois de chavirer, je ne suis qu'un homme. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand je pense à cela, C'est pour ça qu'il faut vous imprégner de la parole de Dieu, il faut vous nourrir de la parole de Dieu, il faut vous enrichir de la parole de Dieu, et là vous serez vraiment riche en force, en audace, en courage, dans tout ce que vous avez besoin. Oui, le Seigneur nous dit ceci, et je le rappelle pour la deuxième fois, Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas de la témérité, mais c'est tout simplement une disposition de cœur qui nous permet de regarder en face les choses comme elles sont et de ne pas craindre. Vous savez, cet ennemi n'est plus à redouter parce que souvent, tout ce qu'il déploie de situations, de circonstances, de coïncidences, d'événements dans notre vie, c'est souvent un déploiement de ballons de baudruche. Vous savez ce que c'est? C'est tout simplement de l'air. Vous percez, combien de fois dans notre vie de chrétien, devant des situations extrêmement difficiles, devant des épreuves que nous avons connues, on s'est aperçu après coup que tout ça, c'était du vent. C'était pour nous faire peur, parce qu'il n'y avait rien derrière. Rien. Rien ne pourra vous nuire. Et victoire sur le monde ténébreux, la magie, l'occultisme, la superstition, ça ne s'adresse pas à des chrétiens. Quoique, faisons attention. Ne prenez jamais le psychisme pour du spirituel, et vice-versa. Victoire sur la maladie. Victoire sur les adversités diverses. Victoire sur le mal, victoire sur la haine. Il y a des gens qui quelquefois ne nous aiment pas et voudraient nous faire du mal. Des gens qui sont animés de méchanceté et ne les craignez pas. Victoire sur le péché. Toutefois, le royaume de la mort subsistait. Et j'y reviens. Le dernier ennemi, dont le diable est le prince et l'auteur, eh bien, a été vaincu. Et pour le chrétien, mourir, c'est pas comme pour le reste des autres hommes qui n'ont pas la foi. C'est une autre dimension. C'est autre chose. Jusqu'alors, jusqu'à la venue du Sauveur, Satan tenait le monde. On peut parler de l'Ancien Testament, du monde antique, etc. L'Évangile a été proclamé, son empire était entamé, mais restait l'ultime combat, l'amener dans le piège fatal et l'achever. Pendant des siècles et des siècles, les hommes ont connu toutes sortes de choses. Dieu avait donné la loi pour cadrer tout cela, ça c'est sûr. Mais il fallait faire comme nous avons lu tout à l'heure, comme dans un jour de neige. Vous savez, les gens qui marchent dans la neige, ils ne voient pas les obstacles, ils ne voient pas les pièges. Et le diable a été attiré. Ce n'était pas un jour de neige, hein, ça c'est certain. Mais néanmoins, il est tombé dans le piège. Et Dieu avait un plan pour l'attirer justement et le faire tomber dans la trappe fatale et pour l'achever. Et pour l'attirer à sa perte définitive, alors Dieu a imaginé, pour sauver la terre, vous savez ce qu'il a imaginé? Ce qu'un lion pourrait peut-être aimer avoir sous la dent, Dieu a imaginé un agneau. Vous connaissez? Un agneau pur, sans tache, sacrifié, crucifié, et le lion à ce moment-là s'est précipité sur sa proie innocente pour la dévorer. C'est comme ça que la croix est arrivée. C'est comme ça que la croix est érigée. La croix était un piège pour le diable. Et le diable se frottait les mains en disant, tiens, voilà, le Fils de Dieu. Et bien maintenant, par la haine des hommes, je vais le mettre à mort. Sans compter que il y avait la résurrection après. Ouais. Il y avait la résurrection. La mort même de Jésus a été la fin de l'ennemi à cause de la résurrection. C'est pour ça qu'au cœur même de l'Évangile, il y a ces éléments qui sont tellement importants. Il y a la mort de Jésus, il y a l'ensevelissement de Jésus, mais il y a la résurrection de Jésus qui était le thème particulier des apôtres dans l'Église première, dans le livre des Actes, la résurrection. Comme le lion de Benaja, c'est à Golgotha, à la croix et au tombeau, que Satan a été le plus féroce et le plus redoutable. La haine des hommes. Crucifie, crucifie-le, c'était terrible. Et lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, eh bien on découvre la rage du diable vaincu. Parce qu'il est vaincu, mais il est encore beaucoup plus enragé. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Avant que Jésus ne revienne, il est venu une première fois pour mourir pour nous et ressusciter pour notre vie éternelle. Et pendant ce temps, vous allez me dire, mais le mal existe toujours dans notre monde. Il y a des guerres, il y a des crimes, il y a des choses abominables. Il est vaincu. Mais pour celui qui croit, il est vaincu. Pour ceux qui n'ont pas la foi, il est vainqueur. Parce qu'il est conduit encore. Pour la première fois, la mort n'a pu retenir sa victime à cause de la résurrection. Et ouvrant les portes de toutes les autres, de tous les hommes qui croient dans le pouvoir de la vie sur la mort, c'est ce qu'il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse que je citais il y a un instant, il nous est dit ceci, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers les hommes, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors c'est peut-être un petit peu la complexité de notre monde d'aujourd'hui, en disant « Mais si Jésus l'a vaincu, on ne devrait plus entendre parler du diable. » Il est vaincu. Il est vaincu et nous sommes vainqueurs. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la foi, eh bien, il reste le vainqueur. Il va devenir leur... Il est toujours le vainqueur de leur âme et de leur vie. C'est pour ça qu'il est enragé. Regardez, on n'a jamais eu autant de catastrophes. On n'a jamais eu autant de guerres sanglantes. Je voudrais vous dire que Jésus revient bientôt. Hein. Et on approche du retour de Jésus. Et il semblerait qu'il y ait un déchaînement du mal sur le plan physique, sur le plan... de la guerre, des guerres mondiales aujourd'hui, où ce ne sont plus des centaines de milliers de gens qui meurent sur un champ de bataille, mais ce sont des millions. Des millions. Et avec les armes dont nous disposons aujourd'hui, ça va peut-être être encore... Je n'ose pas y penser. Sur le plan moral, le mal est en train de se répandre dans le monde entier. La corruption, la dissolution, tout ce que l'on peut voir, c'est affreux. Il est rempli de rage contre la race, l'espèce humaine, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu d'un côté nous dit, mais croyez en moi pour être sauvé. Et le diable dit, mais suivez-moi, moi je vais vous donner la gloire, je vais vous donner la mort. Jésus, notre nouveau Benaja, n'a épargné ni sa vie, ni son sang. Parce que la croix était la citadelle, si vous me permettez l'expression, de Satan. Sa forteresse imprenable. C'est la Jéricho de l'enfer, la croix, en quelque sorte. Et cette croix, elle était, Dieu l'a transformée en bénédiction, pour ceux qui croient. Donc Jésus est descendu dans la fosse. Par sa propre mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de faire mourir par le péché. Qu'est-ce que nous dit le livre des Hébreux ? Je termine. Par sa mort, par la mort de Jésus, nous dit ce livre, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, sont retenus toute leur vie dans la servitude. Mais si je crois que Jésus est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur, j'ai la vie, je n'ai plus peur, je n'ai plus de crainte, je suis vainqueur. Paul nous dit, et ajoute à cela, la mort est engloutie dans la victoire. Et il s'exprimera de cette manière, ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. À partir du moment où nous nous repentons de nos péchés, Dieu nous pardonne. Que nous nous convertissions, que nous décidions de suivre Jésus-Christ, Dieu nous accompagnera jusqu'au bout. Et il va entériner cette décision de nous repentir et d'accepter le pardon d'une véritable repentance, le pardon de nos péchés, il va l'entériner par une nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous n'allons plus être les mêmes. Ouais. Nous allons être des hommes et des femmes transformés. Jésus s'est relevé le matin de Pâques, victorieux de la fosse. Et si nous croyons en sa parole, c'est pourquoi elle est donnée, c'est pourquoi elle est partagée ce soir, cette parole qui est une bonne nouvelle. Si nous l'acceptons comme la vérité, si nous reconnaissons Jésus comme notre libérateur et notre sauveur, alors permettez-moi de le dire encore une fois, je l'ai dit, je le redis, le lion rugissant ne peut plus nous faire aucun mal. Et je voudrais tellement que les hommes et les femmes, des chrétiens en particulier, des enfants de Dieu, vous puissiez régler le problème de vos propres peurs et de vos craintes. Vous n'avez plus rien à craindre. Vous appartenez, oui ou non, à Jésus. Vous allez me dire, c'est simpliste, et c'est pourtant la vérité. À partir du moment où je remets ma vie entre les mains de Jésus, mais je suis sauvé. Même s'il y en a un qui me talonne, même s'il y en a un qui essaie de me déchirer, de faire toutes sortes de choses contre ma vie, À chaque fois que je prends position en disant « Mais Jésus est mon sauveur », alors à ce moment-là, j'affirme à qui j'appartiens. J'affirme celui que je suis. C'est-à-dire, eh bien, la personne de Christ qui m'a ouvert la porte de la victoire. Écoutez, Jésus le dit bien. C'est dans quelque sorte son testament spirituel, dans le livre dans l'évangile de Matthieu. Jésus dit « Mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc ce pouvoir, il est aussi à moi. Je le comprends. Alors plus de pleurs, plus de peur, plus de crainte. Mais la règle, c'est la dernière phrase que nous avons lue dans Pierre. Il est dit ceci. « Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. » Ce que nous avons à retenir de notre méditation ce soir, c'est la foi. La foi. Seigneur, donne-nous toujours, toujours, toujours plus de foi en toi. Donne-moi toujours plus de foi dans ta parole. Donne-moi de croire que par ton esprit tu es là, dans ma vie, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Tu me remplis de ta vie. Et que pourrait me faire l'adversaire ? Puisqu'il a été vaincu. Parce que quelqu'un est descendu dans la fosse. Et quelqu'un en est remonté pour me donner une pleine et entière victoire. Oui. Retenons cette parole ce soir. Je pense qu'elle est importante. Parce que finalement, elle est déclinée sous différentes formes dans l'Écriture sainte. Là, nous l'avons trouvée dans une petite histoire très, très intéressante. L'histoire de Benaja. Mais Benaja était tout simplement, eh bien, en quelque sorte, une anticipation de Jésus-Christ. Ouais, anticipation. Alors que Dieu nous bénisse. Moi, je voudrais prier pour vous, qui avez des craintes et des peurs, qui craignez le diable, qui craignez encore en tant que chrétien, celui qui est un menteur, celui qui est le meurtrier. On n'a pas à le craindre. Nous avons simplement à proclamer sa victoire. Et c'est comme ça que nous serons forts. Non pas par notre force à nous, mais par sa force à lui, la force à Jésus, la force en Jésus-Christ. Oui. Fortifiez-vous dans sa force toute puissante, nous dit Paul aux Éphésiens. Oui. Alors c'est ça ce que nous avons besoin, nous allons prier. Nous allons nous recueillir quelques instants. Et je crois que le Saint-Esprit, par sa parole, est en train de faire rentrer eh bien, ces mots dans notre cœur. Pour que nous puissions être comme Benaja, des vainqueurs, et plus que vainqueurs, parce que nous avons été aimés au point que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que tu nous as dit un jour, et tu le dis encore aujourd'hui, que lorsque viendra le Consolateur, il convaincra le monde de péché, il convaincra le monde de justice. Et il convaincra le monde de jugement. Qu'est-ce que cela veut dire, Seigneur ? Sinon que, en effet, celui que tu nous as laissé comme, en effet, notre défenseur, consolateur, l'avocat auprès du Père, eh bien, tu as convaincu et tu convaincs encore les hommes de péché, parce que s'il n'y a pas de repentance, nous restons et nous mourrons dans nos péchés. Et parce que nous croyons que Jésus a expié nos péchés, nous sommes aujourd'hui vainqueurs. En fait, de justice, c'est que Jésus est mort à notre place. Et il a été fait, en effet, pécheur, pour que nous devenions, en effet, justification à travers son sang. Et également, le Saint-Esprit convaincra de jugement. Non pas parce que je suis jugé, parce que si je crois, eh bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le jugement dont il est question, c'est parce que le diable a été jugé. Il a été jugé, condamné, et il était vaincu. Et il demeure vaincu maintenant. Alors nous voulons te rendre grâce. Je te prie pour mes amis qui sont là dans cette salle ce soir, qui ont entendu ta parole, et qu'ils comprennent, Seigneur, qu'en effet, ni la mort, ni la vie, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni la tribulation, ni la détresse, ni l'épée, ni la faim, ni la soif, ni toutes ces choses qui appartiennent à la détresse humaine ou à l'adversité humaine, eh bien, ne viendra, nous privera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, je te demande de renforcer la foi. Je te demande de donner une grande foi, Seigneur, à tous ces amis, au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Ils te la demandent, tu la leur donnes, et qu'ils deviennent véritablement des héros, des vainqueurs, et nous te bénissons et nous te remercions. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.